Bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais, pour en être passée par là, à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, mesdames, nous allons parler d'un sujet qui, je sais, va beaucoup vous intéresser puisque nous allons parler kilos, mais d'une certaine manière, et ceci grâce à mon invitée qui est Cécile Grondier, qui est thérapeute en kilos émotionnels. Donc c'est là où ça fait toute la différence. Alors Cécile, nous allons rentrer vraiment tout de suite dans le sujet. Et j'aurais voulu déjà que tu te présentes et que tu nous expliques en quoi consiste ton métier de thérapeute en kilos émotionnels. Et bien sûr, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
Bonjour Isabelle et bonjour à tous et toutes. Je voulais vous parler aujourd'hui effectivement des kilos émotionnels. Et c'est quoi ces kilos émotionnels? Ça peut être deux choses. Ça peut être déjà quand vous avez un comportement alimentaire qui peut être un peu excessif, ça, voilà, je parlerai des différentes manières dont ça peut se manifester dans votre vie. Et puis, ça peut être aussi quand le corps vient prendre en charge quelque chose que vous n'avez pas pris en charge émotionnellement. Donc, sans changer à votre activité alimentaire, vous avez votre corps qui grossit ou qui mincit d'ailleurs, sans que vous ayez rien changé, ni à votre assiette, ni à votre activité physique. Voilà, ça peut être ces deux choses-là. Alors, moi, je suis thérapeute spécialisée dans ces phénomènes de kilos émotionnels. Ça fait 3 ans que j'accompagne des hommes et des femmes à se libérer de ces schémas enfermants pour retrouver une relation sereine avec la nourriture, mais aussi restaurer l'estime de soi, parce que c'est très corrélé avec le phénomène des kilos émotionnels, et puis également se réconcilier avec son image corporelle. Voilà, donc moi-même, c'est une approche… Alors moi-même, j'ai été déjà dans les kilos émotionnels pendant 40 ans. Je venais manger ma colère en particulier, et plus particulièrement avec le sucre. Donc je pâtissais beaucoup, je partageais beaucoup autour du sucre pour me donner une bonne conscience de venir moi-même prendre ma dose pour anesthésier les émotions que je n'avais pas envie de vivre. Et puis, c'est par un accompagnement émotionnel, psychologique et comportemental que j'ai pu sortir de ce schéma. Et ensuite, j'ai décidé de me former avec des outils de thérapeute pour venir accompagner à mon tour les personnes pour qu'elles puissent se libérer de ces fonctionnements et, une fois de plus, retrouver un rapport serein avec la nourriture, ne plus déplorer, ne plus perdre son temps et déplorer toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir autour. Après, se construire parce qu'elles auront compris vraiment ce que ça vient raconter sur elles, se construire une vie plus épanouie.
Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que moi-même, lorsque j'étais adolescente, j'ai eu une adolescence un petit peu compliquée, on va dire, avec une situation familiale très compliquée. Et clairement, la nourriture était mon refuge. Donc, j'avais pris beaucoup de poids et je me rends compte aujourd'hui que c'était une façon de me protéger et un peu de me cacher derrière ces kilos. Et c'est clairement, là, je le vois aujourd'hui, des kilos, comme tu dis, émotionnels. Mais malgré tout, alors, il y a bien sûr ce côté, comme tu l'as très bien expliqué, d'image de soi. Mais penses-tu aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, qu'une femme ronde, alors pas forcément parce qu'elle a pris des kilos liés à ses émotions, penses-tu quand même que le fait d'être ronde aujourd'hui est toujours quelque chose qui est mal accepté dans nos sociétés? Penses-tu qu'on est toujours dans ces dictats de la minceur? Parce que pour certaines femmes, et dont certaines qui sont des personnes proches de moi, des amis, qui ont, on va dire, un surpoids, mais qui sont en très bonne santé et qui vivent, en fait, ce surpoids plutôt bien. Elles n'ont pas de problème de santé, elles n'ont pas de problème d'image ou de confiance. Mais penses-tu néanmoins que la société, finalement, nous, notre regard à tous sur ces personnes un petit peu rondes est toujours stigmatisante?
Alors, on a une vraie prise de conscience, mais autour de la génération qui nous concerne, puisque moi j'ai 53 ans, on doit être à peu près de la même génération, on a reçu les mêmes schémas envoyés par les publicistes, par les industriels qui nous ont fabriqué une image d'une femme parfaite, on va dire, avec des mensurations telles que, avec un corps tonique, et puis des femmes qui sourient forcément en étant dans cet état. Donc, on a du mal à s'identifier à ces images qu'on nous envoie déjà depuis deux, trois générations. Et ça fait partie de notre inconscient collectif. C'est pour ça aussi que les kilos émotionnels, c'est surtout un phénomène féminin. Parce qu'on nous a tellement plaqué toutes ces images de femmes sveltes et toniques, et donc qui paraissent heureuses, qu'on a du mal que beaucoup de femmes ont encore du mal, en regardant ces images, à ne pas se comparer et se dire, bah, je suis moins que, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas assez. Et donc c'est là où vient jouer aussi l'estime de soi. Mais c'est quand même en train de changer avec les générations qui arrivent. C'est-à-dire qu'on voit. Alors, il y a deux choses. On voit d'une part, effectivement, beaucoup moins de grossophobie en général dans la société. Ça, c'est vrai. Mais on voit aussi tout ce qui a été rapporté par les réseaux sociaux et les filtres qui font que maintenant, les jeunes femmes ne sont plus en train de se dire je vais faire un régime. Et tant mieux, parce que c'est absolument pas ce qu'il faut faire, stresser son corps. Pendant un temps pour qu'après, ils reprennent des kilos et encore plus en général que ce qu'on avait avant. Donc, c'est vraiment pas une solution. Mais maintenant, elles pensent à se modifier via la chirurgie esthétique. Donc, je dirais, le phénomène est quand même un petit peu toujours là, de se comparer à l'autre et à de vouloir se modifier pour ressembler à quelqu'un d'autre. C'est malheureusement toujours un petit peu présent, avec une autre manière de faire, mais ça l'est toujours un petit peu. Bon, après, il y a quand même une prise de conscience. Donc, on voit de plus en plus de magazines féminins ou de marques qui ont des mannequins, qui sont avec des mensurations qui ressemblent plus à la majorité des femmes aujourd'hui dans la société plutôt qu'à des mannequins tels qu'on les a connus encore avant. Et je voulais relever quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de femmes que tu connais autour de toi qui n'ont pas de problème de confiance. Alors vraiment, je vais faire un petit stop sur confiance et estime. Donc l'estime de soi, c'est bien le regard qu'on porte sur sa valeur intérieure. Et puis la confiance, c'est vraiment, on est plus dans le faire, on est dans les compétences, on se reconnaît des compétences, des savoir-faire. On est plus dans le domaine du faire, alors que l'estime, on est plus dans le domaine de l'être. On peut très bien avoir une faible estime de soi et avoir surcompensé avec une confiance en soi qui fait que socialement, on a très bien réussi. Tu vois?
C'est très
Et
intéressant de faire cette différence, effectivement. Oui.
voilà,
Parce
et
que...
derrière les kilos émotionnels, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
non, non, je t'en
Derrière les
prie.
kilos émotionnels, on peut très bien avoir des personnes qui ont trouvé leur place socialement. Parce qu'elles ont surinvesti, par exemple, une énergie un peu plus masculine de faire, voilà. Donc elles ont compris les codes pour se faire accepter dans la société, on va dire. Mais par contre, elles ne savent pas qui elles sont à l'intérieur vraiment. Elles ne connaissent pas elles n'arrivent pas à décrypter les émotions. Elles ne connaissent pas leurs vrais désirs, leurs vrais besoins personnels. Et là, on est en manque de connexion sur son énergie plus féminine. Et par conséquent, là, c'est plus l'estime de soi qui est en jeu.
D'accord. Donc, ça prouve bien qu'il y a toujours ce problème de kilos, en fait, qui va interférer soit avec l'estime, soit avec la confiance, soit avec les deux. C'est
Oui, tout à fait.
compliqué de finalement. Oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et je trouve ça, tu vois, même à nos âges, bon, moi je suis un petit peu plus âgée, j'ai 58 ans, Et je vois sur les réseaux beaucoup de comptes Instagram qui parlent des femmes de plus de 50 ans, de la ménopause. Ça, super. Moi, je suis ravie qu'on puisse en parler de plus en plus. Ce qui me dérange, par contre, c'est de voir des femmes, alors des Françaises ou des Anglo-Saxonnes, qui vont se montrer le ventre à l'air, très bien, ça ne me dérange pas, mais qui en fait vont vendre cette image de ventre ultra plat, les abdos qui ressortent, etc., et qui ont un discours de mesdames, c'est accessible à toutes. Il y a qu'à Faucon, hein. Mangez moins, divisez votre assiette par deux et faites plus de sport. Je pense que si c'était aussi simple que ça, on serait toutes avec des tablettes de chocolat, pas dans le placard, mais au niveau de notre ventre. Et moi, ça m'hérisse un peu le poil parce que je trouve que ça ajoute justement à tous ces déséquilibres qu'on peut avoir vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de son alimentation, ou même à 50, 55, 60 ans, on ne sait toujours pas comment s'alimenter. Donc, que penses-tu, toi, de ce que renvoie, donc tu en as un petit peu parlé là, des réseaux, mais même pour pas seulement les jeunes femmes, mais les femmes plus âgées, de plus en plus, on voit ces images-là. Et moi, je trouve ça désastreux parce que
Oui.
on croit qu'on s'en sort jamais.
Ben, je pense que c'est vraiment le résultat de toutes ces décennies où on nous a, enfin ces décennies, ces mêmes générations, parce que moi je voyais déjà ma grand-mère faire attention à ce qu'elle mangeait et ma mère rentrait le ventre devant sa glace. Donc c'est voilà, ça fait trois, en tout cas pour moi, ça fait trois générations que je vois fonctionner comme ça. Donc ces femmes qui ont 50 ans et plus, elles ont été, elles portent cet inconscient collectif de plusieurs générations. Donc elles sont restées coincées là-dedans. Et pour elles, être belle à leur âge, bah, ça passe par la minceur et un corps tonique. Voilà, ça passe par là. Mais après, je dirais qu'on a autant de vérité que de personnes. Moi, les personnes que j'accompagne, elles ont entre 45 et 70 ans, on va dire. Donc, elles sont vraiment dans cette période, soit pré-ménopause, soit ménopause, soit après la ménopause. Et moi, je ne suis pas du tout diététicienne ni nutritionniste, hein, donc jamais je vais dire quoi manger, quand manger. Il est hors de question de diaboliser les aliments. Et en plus, je suis aussi, à côté de mon activité de thérapeute, cuisinière dans un restaurant. Donc autant te dire que le plaisir alimentaire, le plaisir de l'assiette, il est structurel. Et je suis une gourmande depuis toujours, une épicurienne, et c'est hors de question que je donne un autre message à mes clientes, enfin clients-clientes, autour de l'assiette. C'est-à-dire que je défends de manière très fervente ce rapport au plaisir alimentaire. Voilà, donc en fait, mon approche, elle est vraiment d'aller apaiser ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, ton comportement alimentaire, il résulte d'un état émotionnel qui est instable à un moment donné, qui est difficile à vivre. Tu t'imagines que ça va être tellement douloureux que tu ne veux pas y aller, et donc tu cherches bonheur dans la chips ou le chocolat, pour faire simple.
Et
Et
puis
donc,
évidemment, après, on culpabilise et c'est le cercle
c'est un
infernal.
cercle vicieux, voilà, c'est un cercle vicieux, c'est ça. C'est-à-dire, on ne se sent pas bien, on va chercher, on va à anesthésier l'émotion en allant dans le frigo, dans le placard, et puis après, on se culpabilise, on se déteste, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, et donc ça nous met de nouveau dans une émotion inconfortable, et c'est un cercle vicieux, un schéma enfermant qui vient se mettre en place.
Oui, et comme tu parlais justement de cette phase de préménopause, ménopause, voire post-ménopause, il est vrai que moi, dans mes accompagnements, c'est une des questions qui revient souvent, c'est et la prise de poids. Moi, c'est ma peur. Ma peur, c'est la prise de poids. Comment je vais gérer ça? Donc, c'est une question qui revient quand même très souvent. Ce que je peux comprendre en même temps, hein, je suis pas du tout en train de dire que il faut pas rechercher peut-être une image de soi qui correspond à ce qu'on a envie de renvoyer. C'est pas du tout ça. Mais au lieu de parler peut-être juste d'une minceur extrême, de plutôt parler de se retrouver en pleine forme. Et c'est vrai qu'à la ménopause, il y a un phénomène physiologique qui se passe, qui fait que, en fait, le petit, on va dire, amas graisseux qu'on peut avoir au niveau de nos hanches va migrer vers le ventre. Alors, comme je dis souvent, la nature, malgré tout, est bien faite parce que, il faut malgré tout conserver un petit bidou parce que nos œstrogènes, eh bien, dans cette masse graisseuse abdominale, vont continuer à se produire. Donc, alors évidemment, il ne faut pas non plus être dans l'exagération et de se dire, bon, bah, puisque je vais avoir plus d'œstrogènes, je vais me laisser aller à prendre 10 kilos, bien évidemment. Mais c'est pour ça aussi que vraiment la quête de la minceur absolue au moment de la ménopause n'est pas forcément le plus indiqué, d'autant plus que ça va venir stresser notre corps. Donc, on va produire davantage de cortisol. Et si on produit davantage de cortisol, eh bien, on produit moins d'œstrogènes. Donc c'est vraiment quelque chose je trouve cette prise de poids de quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à détricoter tout ce qu'il y a derrière et toutes les conséquences à vouloir absolument être dans une minceur absolue. Donc je trouve que c'est très intéressant ton approche de venir comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va venir, comme tu dis, ouvrir le frigo, ouvrir le placard. Et en général, ce n'est pas pour manger une pomme et quelques amandes, mais ça va être plutôt pour se ruer sur la plaque de chocolat. Et donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et comment toi, tu arrives du coup à gérer ça? Quelle est ton approche, en fait, quand tu reçois des femmes qui sont dans cette situation particulière?
Alors, j'ai entendu deux choses dans ce que tu viens de dire. Donc, une partie qui concerne le comportement alimentaire, et je vais y revenir. Et puis, une autre partie qui est l'acceptation de ce qui est dans cette nouvelle phase. C'est-à-dire que, en général, les personnes qui sont là, qui arrivent vers moi, eh bien, elles sont dans une phase donc de changement, hein, puisque voilà, c'est une espèce de crise de milieu de vie, on va dire, mais générale. Donc physique, ça c'est ce qui les fait se déplacer quelque part, parce que elle porte un regard différent sur elle, et c'est presque ça qui devient le moteur du changement. En tout cas, à venir chercher une réponse, une clarté, et puis aussi des solutions à l'extérieur. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans cette crise de milieu de vie où il y a plein de choses qui ressortent. On fait le bilan de sa vie, on voit comment on a fonctionné jusqu'à présent. Il y a des fois des séparations qui se passent à ce moment-là, les enfants partent. Enfin voilà, il y a une reprise en main de soi à soi, qui se fait à ce moment-là. Et c'est aussi ça qui les interroge, c'est-à-dire, tiens, pourquoi j'ai fonctionné depuis toujours comme ça avec mon assiette? Voilà, j'ai plus envie de fonctionner comme ça. J'ai envie de comprendre et puis j'ai envie de changer aussi. Voilà, donc il y a ça et puis il y a le comportement alimentaire. Donc en fait, mon approche, elle est vraiment de type émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a une seconde où tout bascule. Alors on va prendre le cas vraiment du comportement alimentaire où il y a de la pulsion, de l'obsession alimentaire. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'à une heure précise ou dans une situation bien particulière, je ressens quelque chose d'inconfortable. Et à ce moment-là, je vais chercher bonheur dans la cuisine. Donc, dans ce moment-là, bien précis, donc j'appelle ça la seconde où tout bascule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une partie très lucide qui se voit faire. Voilà, vous voyez bien aller dans la cuisine. Voilà, vous dirigez vers ce fichu placard ou ce fichu frigo à ce moment-là. Vous le connaissez par cœur, ce schéma. Vous êtes hyper lucide. Vous voyez bien ce qui va se passer. Vous savez pertinemment avec votre esprit, votre mental, que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire. Et pour autant, il y a cette pulsion qui est là avec toute son intensité, une espèce de vague, un tsunami qui balaye tout sur son passage et vous cédez systématiquement à cette pulsion. Donc là, donc dans ce moment, dans cette seconde où tout bascule, je vous conseille déjà de faire un stop, vraiment. Parce que comme vous voyez avancer vers la cuisine, vous êtes consciente de ça, vous pouvez faire un stop sur l'image, un arrêt sur image et ce que j'appelle faire la girafe. C'est-à-dire vous prenez un petit peu de hauteur sur la situation, vous extrayez de la situation et vous dites, OK, je me vois bien aller dans la cuisine, donc il y a un truc. Maintenant que j'ai écouté le podcast d'Isabelle, j'ai compris, il y a un truc pour moi qui se passe. Dans ce moment-là, je suis dans un état intérieur qui doit pas me convenir tout à fait. J'ai une émotion. Alors là, je fais une petite parenthèse. C'est pareil, on n'a pas été quand on est dans cette tranche d'âge, on nous a pas éduqués autour de l'émotion. Donc pour certaines personnes, c'est pas si simple de repérer ce qui se passe à l'intérieur, déjà. Il y a un inconfort, mais on ne sait pas trop dire ce que c'est cette émotion. Donc, dans l'accompagnement, je propose aussi des listes de vocabulaire, d'adjectifs, pour pouvoir déterminer dans quel type d'émotion je me trouve. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est de la peur? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est de la colère ou de la tristesse? Dans quel registre je me trouve? Si on arrive à poser des mots tout seul, c'est encore plus simple. Mais parfois, on a besoin d'aller en choisir dans une liste pour bien déterminer ce qui se passe. Donc, OK, j'ai déterminé, ben voilà, je suis par exemple, ben, je ne sais pas, dans la tristesse. La deuxième étape, c'est d'en définir son intensité. OK, je suis chagrinée ou je suis effondrée? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut comprendre que effondrée, ça devient beaucoup plus intense dans mon système et que le besoin doit être encore plus grand à satisfaire derrière pour moi. Donc, il est intéressant que j'aille mettre aussi une intensité sur mon émotion pour que je vois à quel point c'est important pour moi, pour mon intérieur. Et la troisième étape, c'est de définir le vrai besoin qui est derrière. Parce que je suis effondrée pour quelle raison? Parce que mon chef m'a coupé la parole aujourd'hui en réunion, parce que j'ai perdu mon mari il y a 2 ans, parce que mon fils m'avait dit qu'il viendrait réparer ma fuite de salle de bain et il n'est pas venu aujourd'hui. Vous voyez, il peut y avoir plein de situations derrière qui font que bah, je suis vraiment dans une grande tristesse ce soir. Donc, et on ne va pas répondre de la même manière au fait que le chef ait coupé la parole ou que le fils ne soit pas venu. On ne va pas mettre en place l'action qui va nous nourrir, nous, dans nous satisfaire, nous, dans notre besoin, de la même manière non plus. D'un côté, on va peut-être demander un entretien à son chef le lendemain, et puis d'un autre côté, on va peut-être appeler son fils pour parler de confiance entre nous, et voilà, le fait qu'il devait passer, qu'il n'est pas passé, et à quel point ça peut venir vous toucher. Vous voyez? Donc, du coup, si on procède comme ça, et à définir le vrai besoin qui est derrière, eh bien du coup, on se rend compte que aller chercher la plaquette de chocolat, Nutella ou la chips ou le saucisson est inadapté. On se rend bien compte que ça, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça n'a pas de sens en fait. Hein? On vient juste anesthésier, c'est une stratégie d'évitement, mais on ne vient pas répondre à ce qui est important pour soi à l'intérieur.
Alors
On
là,
prend
c'est
le.
vraiment, je suis très très contente que tu mettes le doigt là-dessus parce que dans mon programme La Ménopause Académie, on utilise beaucoup l'écriture. Et justement, pour poser les choses, pour poser et pouvoir parler de nos émotions. Donc, il y a des questions guidées, bien évidemment. Et parce que, comme tu l'as très bien dit, des fois, on ne sait pas, on n'est juste pas bien, mais on ne sait pas mettre les mots qu'il faut. Donc, je trouve que c'est une excellente idée que tu proposes cette liste. Ça permet d'être plus dans la subtilité de son émotion et du coup, bah, comme tu dis, après, on est davantage maître de la solution. Donc ça, je trouve c'est très, très intéressant de pouvoir décortiquer en amont qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche la pulsion alimentaire. Et ça, c'est quelque chose que tu proposes en atelier parce que comment tu procèdes en fait? Comment ça se passe de travailler avec toi?
Eh bien, c'est un accompagnement sur 6 mois. En fait, 6 mois, déjà, j'ai choisi cette durée parce que il faut du temps pour venir se rencontrer. Il faut du temps pour revenir dans son passé, trouver la clarté de nos schémas dans le passé. Évidemment, on ne s'y arrête pas parce que le passé, c'est le passé, on ne va pas le changer. Mais par contre, on peut y trouver quand même quelques réponses sur notre histoire personnelle, autant dans la construction familiale qu'après dans les aléas de vie qu'ont pu vraiment compter d'une manière traumatisante ou non d'ailleurs. Mais voilà, on vient faire toute cette analyse du passé. Après, la personne vient se rencontrer telle qu'elle est là aujourd'hui. Voilà, on vient faire un stop sur la femme ou l'homme qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce que vient me dire cette femme, cet homme-là? Qu'est-ce qu'elle vibre? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre aujourd'hui? Donc tout ça, toute cette introspection plus yin, hein, plus dans l'écoute intérieure, on va la trouver sur 3 mois. Et puis au bout de ces 3 mois, ben, on a compris d'où on vient, on a compris qui on est. Donc on décide soit, enfin on a compris parfois qu'il y a certaines choses qui sont tellement structurelles, tellement importantes pour soi, qu'on pose un regard différent, peut-être plus bienveillant et d'acceptation de qui on est. Ou bien on décide de larguer certaines choses, de dire bah non, ces schémas-là, je n'en veux plus, je veux faire différemment à partir d'aujourd'hui. Et là, on passe dans un mode un peu plus yang, de mise en place dans la matière, dans la vraie vie, des changements qu'on a envie de voir opérer. Voilà, donc 3 mois, 3 mois pour venir à la fois écouter l'intérieur et mettre en place dans la vie concrètement les changements pour atteindre ses objectifs. Donc, au bout de ces 6 mois, les personnes n'ont plus de pulsions, elles n'ont plus d'obsession alimentaire, ça je peux le garantir. Elles se connaissent bien mieux, elles peuvent se réajuster dans la vie par rapport à leurs vrais désirs profonds, elles savent comment elles fonctionnent et donc elles peuvent se réajuster, décider ben, de changer quelque chose dans leur vie. Alors, ça peut être le travail, ça peut être retrouver quelqu'un ou interrompre une relation, ça peut être voilà, changer de lieu de vie, etc. Enfin, mais il y a des changements majeurs quand même qui s'opèrent au bout. Et en tout cas, elles ont restauré l'estime de soi parce qu'elles sont venues se rencontrer et comprennent maintenant à quel point elles sont déjà merveilleuses alors qu'avant elles n'ouvraient pas les yeux dessus, que ce soit intérieurement ou extérieurement, parce qu'elles sont venues aussi se réconcilier avec leur image corporelle. On a travaillé avec la photo, le miroir, pour faire ce travail d'acceptation. Voilà, donc plusieurs étapes, à la fois un retour sur le passé, un stop sur le présent, et après on passe au changement.
Oui, que
Voilà comment je propose.
l'alimentation ne soit plus un problème et que ça re redevienne
Une relation sereine, saine,
sa juste
juste,
place, se nourrir
voilà.
par plaisir pour aussi bien faire fonctionner son corps, hein,
C'est ça,
donc,
exactement.
et qu'il n'y ait plus ces désordres comportementaux face à la nourriture. Donc, eh bien, écoute, je trouve que c'est très, très intéressant, voilà, d'avoir abordé ce
Merci.
sujet. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puisque, donc, comme je l'ai évoqué, j'ai eu moi-même ces désordres alimentaires étant jeune. Et c'est quelque chose qui m'a quand même relativement poursuivi, même si j'ai un passé où j'ai fait beaucoup de danse, où j'ai été travailler dans des salles de sport. Donc, j'ai un rapport au corps quand même qui est assez fort. Plus la pratique du yoga, l'avantage et la beauté du yoga, c'est qu'on est très à l'écoute justement de nos impressions, de nos sensations. Voilà, donc ça permet aussi de désamorcer parfois certaines choses. Mais ça reste quand même quelque chose, je vois, même chez moi, parfois un petit peu pas à combattre, ce serait vraiment un très grand mot, mais je sens que parfois, comme tu disais, déstabilisée par une émotion, eh bien, j'aurais tendance à tout de suite, la réaction, ce serait d'aller vers un aliment sucré. Alors, parfois, je le fais et je ne me culpabilise pas du tout. Je me dis, voilà, je me fais plaisir,
C'est
c'est un
ça.
vrai plaisir, je l'apprécie et puis je sais très bien que bah, voilà, le lendemain, ça sera fini. Donc, arriver aussi à jongler avec le plaisir et ne plus diaboliser, en fait, la nourriture. Il faut arriver, comme tu dis, à avoir simplement une relation saine avec le fait de se nourrir et de se mettre à table, quoi.
Oui, c'est ça, parce que le plaisir, il est complètement sain, hein, et heureusement qu'on a du plaisir dans la vie et on peut avoir du plaisir en mangeant, ça c'est, il y a pas de souci, on peut avoir son habitude de ses 2 carreaux de chocolat tous les soirs et c'est OK. C'est pas pour ça qu'on va parler de désordre de comportement alimentaire. Mais il faut bien comprendre que quand dans cette seconde-là, en fait, on prend une décision inconsciente. Et c'est bien qu'il y a des bénéfices inconscients, il y a des bénéfices secondaires à rester dans le schéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on vient aussi débusquer avec des séances comme la visualisation, qui ressemble un peu à l'hypnose, ou bien la cuisine-thérapie, qui est un outil que j'utilise aussi. La cuisine-thérapie, c'est comme de l'art-thérapie, mais avec des ingrédients culinaires. Et on vient faire parler dans cet exercice de création son inconscient. On lâche le mental parce qu'on est pris dans la créativité activée autour de nos 5 sens. Et donc, du coup, dans l'assiette, vient s'inviter des messages qui sont de l'ordre de l'inconscient. Et d'ailleurs, je suis aussi formatrice dans l'école de cuisine thérapie depuis le mois de novembre, là, depuis peu.
Bravo.
Et merci.
Oui, bravo, bravo.
Voilà.
Oui, c'est une approche très, très intéressante. C'est très ludique.
Oui, tu as pu tester?
J'ai
Tu
pu
as pu tester?
tester.
Ok, on
Voilà,
était
j'ai
dans
pu
la même
tester.
masterclass toutes les
C'est
deux.
ça. Donc, c'est vrai que j'ai pu tester et j'avoue que j'étais un petit peu Oui, bah, curieuse hein, de savoir ce que c'était. Comme tu dis, on entend parler d'art-thérapie, on peut très bien imaginer ce qu'on peut y trouver. Et par contre, dans cette cuisine-thérapie, ça m'a beaucoup intriguée et finalement, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça fait vraiment bouger des choses, ça fait réfléchir, c'est très ludique en plus, parce que chacune montrait son assiette, on faisait des photos pour montrer. Et voilà, et on voyait bien la créativité de certaines hein, qui partaient dans des choses très élaborées, et puis d'autres, c'était beaucoup plus simple, mais en même temps poétique. Donc oui, ça m'avait beaucoup plu. Donc, mais écoute, vraiment, Cécile, je trouve que c'est très, très intéressant toute cette approche, et on sait à quel point, encore une fois, on met de l'affectif dans sa nourriture, et parfois, comment, même quand on est jeune enfant, eh bien, les mamans vont compenser des fois des situations difficiles par la nourriture et en disant mais voilà, regarde, je t'ai acheté ton gâteau préféré parce qu'on sait qu'à côté il y a des manquements et des manques affectifs et du coup la nourriture devient ce point de repère affectif et ça peut remonter loin en fait,
Ah
ça peut
oui, mais ça
remonter loin
remonte
et
loin. Mais bon, déjà, quand on est bébé et qu'on a faim, on vient crier, pleurer et demander, voilà, demander sa nourriture. Et on reçoit non seulement de la nourriture, évidemment, le sein ou le biberon de maman, mais on reçoit toute son affection, tout son amour avec. Et bien souvent, bah, ce package, ce combo, on le garde très profond en soi. Et beaucoup de personnes, en fait, continuent de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que l'amour, ben, le plaisir, parce qu'il faut aussi dire que quand on mange, on a cette hormone du plaisir qui arrive. Hein, donc, du coup, ça vient nous donner ben, cette compensation, cette illusion d'affection et d'amour en mangeant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, justement, manquent de cette sensation d'amour, parce que je ne dis pas qu'elles ne sont pas aimées. Elles peuvent être aimées, mais en tout cas, elles ne reçoivent pas assez ou de la bonne manière pour elles. Et donc, elles vont trouver refuge dans l'alimentaire.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de choses autour des kilos émotionnels qui sont liées avec déjà à travailler dans le lien de la mère, dans la construction fa familiale et autour du lien avec maman.
Oui, ça. Et puis même, je vois l'alimentation, c'est aussi enfin, comme une preuve d'amour. Par exemple,
Bien sûr.
quand on aime cuisiner pour ses amis, sa famille, ou moi, je sais que j'ai une de mes filles qui rentre souvent les week-ends, ben, je réfléchis toujours à qu'est-ce qui va lui faire plaisir, lui faire son plat préféré. Donc, il y a quelque chose, un lien extrêmement fort avec la nourriture et c'est un véhicule aussi d'amour. C'est
Oui, tout à
donc
fait. C'est très structurel
oui.
dans notre histoire de notre pays, de notre culture française, hein, voilà, c'est très ancré dans notre culture française.
Oui,
Le
complètement.
partage intergénérationnel, il se fait autour de la table, autour de, pas tous, hein, mais beaucoup de personnes que je suis, elles ont des souvenirs d'orgie, quoi, de gavage
Oui, c'est vrai.
autour de la nourriture, hein,
Oui.
familiale. Donc, il y a aussi tout ça à déconstruire.
Oui.
Hein, parce que c'est synonyme, voilà. Donc je reproduis par loyauté familiale quelque part, je reproduis le schéma et donc aimer les gens autour d'une table, bah, c'est faire beaucoup, c'est voilà, pousser à ce qu'ils finissent le plat.
Oui, voilà, il y a ça
Voilà,
aussi.
y a
Et
énormément de choses qu'on peut aussi reproduire nous-mêmes parce qu'on l'a tellement vu que ça se passe comme ça, on l'a intégré comme ça.
oui, exactement. Comme le fameux mamie qui fait son plat et puis on n'en peut plus. Ah, mais t'as pas aimé, je me suis donné du
Ah,
mal.
il en
Donc, bon,
reste.
si,
C'est
allez,
ça.
j'en reprends un peu pour te faire plaisir, mais on est gavé, on
Oui,
n'en
c'est ça.
peut plus. Donc,
Exactement.
c'est drôle quand même avec tout ce que ça vient mettre en lumière, cette relation à la
Oui, à la
nourriture.
nourriture.
Ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Ça parle
Je
de
pense qu'on
soi
pourrait.
et de la relation aux autres. Et de
Voilà,
la relation
ouais.
aux autres. Ça,
Donc,
voilà. Et en partant de là, on peut vraiment décoder beaucoup de choses au niveau psychologique,
oui.
comportemental dans notre relation de soi à soi et avec les
Oui,
autres.
complètement. Non, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais
Oui.
je sais que Cécile, tu as quand même beaucoup de travail qui t'attend. Donc, Peut-être qu'on pourra en reparler sur un autre épisode. Mais en tout cas, je termine toujours en posant cette question à mon invité. Si tu as, alors peut-être que tu n'en as pas, mais si tu as un rituel bien-être ou un rituel beauté, est-ce que tu accepterais de le partager avec nous?
Eh bien, écoute, mon rituel bien-être. Alors, des rituels beauté, j'en ai aussi, mais je veux dire rien, enfin, rien de très spécial. Voilà, c'est assez classique. Je prends soin de moi tous les jours. Je me crème, par exemple, tous les jours, en étant en pleine conscience dans ce moment de me faire du bien. Mais c'est plus un rituel bien-être et ça sera en lien avec ce que je vous ai partagé. C'est prendre l'habitude de se poser la question sur comment je vais, moi, à l'intérieur. Et cette météo intérieure, elle peut être mentale. C'est-à-dire, voilà, je fais le point sur les soucis qui me tarabustent, voilà, avec quoi je tourne, avec quoi mon petit vélo il est en train de tourner. Cette météo, elle peut être physique, bien évidemment. Voilà, est-ce que j'ai un souci? J'ai mal par là, j'ai voilà, de quoi faudrait que je m'occupe pour aller mieux? Et puis cette météo intérieure au niveau émotionnel aussi. Et donc cette météo intérieure, plus on prend l'habitude d'aller s'interroger sur comment je suis à l'intérieur, le matin avant de commencer sa journée ou le soir en petit bilan, mais c'est un peu comme un muscle qu'on entraîne et qu'on endurcit, c'est-à-dire on va prendre de plus en plus l'habitude d'aller plus vite et puis d'aller à l'essentiel finalement de ce qui nous préoccupe. Et quand on a déjà mis le doigt sur l'essentiel de ce qui nous préoccupe, que ce soit émotionnel, physique ou mental, ben, on va plus vite aussi à trouver notre solution, hein, à satisfaire le vrai besoin qui est derrière. Et c'est pas quelque chose de facile au départ, mais voilà, en s'entraînant, on peut vraiment apporter de la lumière, de la clarté sur ce qu'on vit et comment se diriger mieux dans notre vie pour être plus épanoui.
Eh bien, écoute, voilà une belle fin à cet épisode et très intéressant comme rituel à mettre en place, effectivement. Donc, merci infiniment, Cécile. Bien sûr, je mettrai dans les notes de cet épisode tous les liens pour qu'on puisse te retrouver.
Ah,
Donc,
merci beaucoup.
c'est normal. Et puis, écoute, je te remercie en tout cas énormément d'être venue sur le podcast pour parler des kilos émotionnels. C'était fascinant et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir se retrouver là-dedans et ça va certainement nous faire réfléchir à notre rapport à l'alimentation. Donc, écoute, merci beaucoup, Cécile, pour ton temps. Et à toi qui as écouté l'épisode, eh ben, je te remercie aussi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, si cela t'a intéressé, de venir partager cet épisode ou bien de t'abonner au podcast.
Merci Isabelle, au revoir.
Au revoir.